Mémodio, une mémoire sonore.
Bonsoir. Alors on va discuter un petit peu avec Sandrine et avec Michel. On va commencer surtout par faire un peu plus connaissance avec chacun d'entre eux. Sandrine Malika Charlemagne, donc vous êtes romancière, poétesse, dramaturge, documentariste d'origine franco-algérienne. Vous avez été formée au théâtre avant de vous tourner vers l'écriture, le cinéma documentaire. Vous avez une œuvre littéraire très variée, roman, poésie, théâtre, texte radiophonique. Je vais citer quelques titres, ils sont trop nombreux pour qu'on les cite tous, mais « Mon pays étranger »,« La voix du Moloch » et plus récemment « La traqueuse ». Et puis vous réalisez plusieurs documentaires, vous êtes assez engagé dans des projets qui donnent voix aux invisibles, qui interrogent le rapport à la mémoire, à l'identité, à l'histoire. Et vous êtes aujourd'hui la co-réalisatrice avec Jean Esselmeyer, j'espère que je le prononce bien, du film « De vie pour l'Algérie et tous les damnés de la terre » que nous venons de voir, consacré donc à Gilberte et William Sportis. Donc merci Sandrine d'être avec nous, de nous offrir ce récit. Est-ce que ce portrait vous convient?
Oui, complètement. Et puis merci au conseil départemental pour son accueil. Et merci à vous d'être présent.
Alors, pardon Michel, parce que je vous tournais un petit peu le dos. Michel, vous êtes l'un des fils de William Sportis, dont le film que nous venons de voir retrace le parcours avec Gilbert, bien sûr. Vous êtes né en 1954 à Budapest. Voilà, j'étais en train de me dire, bon, c'est pas sympa de donner son âge, en fait, mais... Voilà, à une époque où votre père, militant, journaliste communiste, travaillait à diffuser l'information pour la voie de l'indépendance vers l'Afrique du Nord. Votre famille rentre ensuite en Algérie. Votre père devient responsable du Parti communiste algérien, le PCA, à Constantine. Et vous êtes là, enfant, vous suivez ce parcours. Le parcours est traversé par cette histoire, une enfance algérienne marquée par les mouvements de foule, les grandes manifestations, et puis aussi par l'effervescence politique et la cinémathèque d'Alger, où est née votre passion du cinéma, dont vous avez fait ensuite votre métier. Vous arrivez en France en 1970 et vous devenez auteur, historien du cinéma, spécialiste notamment du cinéma italien et de la réalisatrice Yannick Belon, à laquelle vous présentez, vous consacrez une monographie, et vous êtes l'auteur d'autres ouvrages comme La Rome des Torre Scola, Une histoire italienne. Yannick Belon, encore une fois, toute une tribu d'images, et votre présence ce soir amène quelque chose d'assez unique, la mémoire vivante, celle d'un couple dont vous avez suivi tout au long de votre enfance, votre adolescence, le parcours qui a traversé le siècle, et vous avez aussi donc ce regard du témoin. Merci d'être là.
Je voudrais simplement ajouter une chose, c'est qu'à travers ces livres, j'ai recherché, effectivement, il y a une recherche, on voit, c'est pas quelque chose que j'ai, c'est pas conscient, c'est inconscient. Il y a une recherche inconsciente de mes origines, à la fois chez Yannick Belon, les origines juives, à travers Yannick Belon, et les origines italiennes de ma mère, à travers le cinéma italien. Et ça, c'est un aspect aussi, je voulais le dire ici, qui montre ce qu'était le colonialisme français. Parce qu'il nous a fait oublier, il nous a fait oublier ce que nous étions, très souvent. Et si, effectivement, ils ont voulu assimiler la population, ils ont voulu assimiler toute la population en règle générale. Voilà. Moi, je considère, personnellement, que les identités que nous avons, elles ne doivent pas devenir meurtrières, mais qu'elle s'additionne et fasse de nous des hommes et des femmes encore plus riches que nous pouvons l'être. Voilà.
Oui, parce que Michel est donc le fils de William Sportis, mais pas en fait de Gilberte, puisque sa maman était effectivement d'origine italienne. Oui. Enfin, je précisais au cas où.
Oui, c'est la seconde épouse de William, et ça nous a fait deux mères en fait, hein. Parce qu'avec Gilberte, on n'a jamais eu de problème, on s'entendait bien avec elle. Elle a un humour extraordinaire, Gilberte. Je veux dire, si on ne se marre pas avec Gilberte, c'est pas possible. Bon. toujours comme ça, et on l'a bien senti hein, dans le film. Voilà. Bon. Et William aussi, il aimait bien rire. Hein. Bon, voilà. C'est ce que je veux dire. Et ce rire, moi, j'ai essayé de le conserver dans ma vie à chaque fois. Et c'est pour ça que je me sens bien avec les Algériens, je le dis honnêtement. Parce qu'il y a un humour... Il y a un humour typique en Algérie, particulier. Voilà.
Alors, Sandrine, pourquoi vous avez choisi de consacrer ce film? Pourquoi vous avez fait finalement ce film?
Alors, en fait, donc, il y a Jean Hasselmeyer, hein, qui est co-réalisateur de ce film. Donc, la petite histoire, disons, je vais essayer de faire court. Donc, Jean Hasselmeyer souhaitait travailler sur les communistes algérien, enfin particulièrement le Parti communiste algérien, et il avait eu l'occasion de rencontrer William Sportis à la Fête de l'Humanité, et il m'avait donc dit, est-ce que toi, voilà, tu auras envie de faire ce projet avec moi? Et moi, intéressée par les thématiques, de par, voilà, bah, de par mes intérêts personnels, on s'est rendu là où il demeurait, c'est-à-dire en banlieue parisienne, à Villejuif. Et il était, on a passé une après-midi avec lui, et il était aux côtés de Gilberte. Et quand on est ressorti, j'ai tout de suite dit à Jean, mais Jean, en fait, ce serait une très belle idée si il y avait également Gilberte qui témoigne avec William, parce que voilà, on sentait qu'ils se complémentaient, enfin, qu'ils étaient complémentaires, et puis elle avait une personnalité assez incroyable. Même si au début, pour elle, elle disait qu'elle n'avait rien fait, parce qu'elle était plus réservée de prime abord. Ensuite, la confiance s'est installée, et Gilberte a accepté d'être avec nous dans le projet, et on a découvert en fait qu'elle avait... Bah, quand elle disait qu'elle n'avait rien fait, bah, en fait, elle avait quand même fait beaucoup. Voilà.
Donc, une occasion de transmettre. Michel, vous vouliez compléter ou...
Non, je ne sais pas, c'était le projet de... Mais c'est vrai qu'elle a raison, Sandrine. C'est une femme extraordinairement courageuse et tenace, Gilberte. Gilberte est une femme extraordinairement courageuse et tenace, ça je reconnais. Alors, pour l'anecdote, avec William, il m'arrivait de m'entendre très bien politiquement avec William. Il était assez souple. Mais il faut dire que Gilberte, il y avait des moments, ça coinçait, on se disputait. Mais c'était jamais méchant. Mais elle avait ses idées parfois un peu comme ça. Voilà.
Quand Sandrine et Jean Hasselmeyer viennent vous voir pour vous parler du film, qu'est-ce que vous attendez de particulier du film?
Ben, moi, j'étais content. Ça va le micro là?
Là, c'est bon.
Je pensais que c'était quelque chose qu'il fallait faire parce que c'était riche d'enseignements. Pour aujourd'hui, à une époque où on essentialise tout, et là on est un exemple typique de gens qui ont vécu et qui se sont mélangés en fait, qui ont fusionné. Papa, c'est-à-dire William, bah, il s'est marié d'abord avec une Italienne, c'était pas quelque chose de simple dans cette Algérie coloniale de dire moi je suis juif, je vais me marier avec une Italienne. Hein? Et puis ensuite il s'est marié, il a retrouvé Gilberte, mais on voit bien que Gilberte c'était pas une juive, hein, c'était voilà. Et Gilberte aussi de son côté, quoi. Et jamais, à aucun moment, ni l'un ni l'autre, que ce soit Gilberte ou William, ne m'ont semblé des nationalistes étroits, des gens qui ne parlent que de l'Algérie, qui n'aiment que l'Algérie. Moi, je rentrais dans la bibliothèque à William comme celle d'Algilberte. Il lisait de tout, tout les intéressait. Tout les intéressait. Ce qui les intéressait, c'est les hommes et les femmes qui sont sur cette terre. Voilà.
D'accord. Alors, avant de poursuivre, si vous avez envie de réagir, d'intervenir, de poser des questions, enfin Ali, là-bas, il y a un micro à votre disposition. Alors, j'en pose une autre le temps que le micro arrive. J'aimerais bien, Michel et Sandrine, il y a plusieurs grands moments dans le récit qui façonnent un petit peu le parcours militant de Gilberte et de William, à commencer par le décret Crémieux, qui est un élément fondateur du parcours de vos parents. Peut-être qu'il serait intéressant d'expliquer, de détailler un peu plus ce que c'était que ce décret Crémieux par lequel tout commence.
Alors oui, le décret Crémieux, comme le dit William, il est venu d'en haut. Ce n'est pas les Juifs qui un jour ont dit « nous, on a envie d'être Français hein ». Et effectivement, quand le décret passe, c'est pas aussi évident. Il y a beaucoup de rabbins qui commencent à s'interroger. Les Juifs vont devenir Français et ils vont plus être Juifs. Il y a cette peur un petit peu, cette appréhension. Et en fait, c'est presque la même appréhension qu'on va retrouver chez les musulmans d'Algérie. Ils vont dire on veut pas de leur citoyenneté parce que quand... Bon. Moi, ce que j'aimerais dire aussi préciser, c'est que il y a eu un premier senatus consulté qui a été fait par Ismaël Urbain, qui était saint-simonien, sous Napoléon III. Et c'était cinq lois, en fait, qu'on appelait senatus consulté, et qui auraient dû attribuer la citoyenneté française autant aux juifs qu'aux musulmans, et sans... les obliger à perdre leur statut personnel. C'était en 1865, un 14 juillet, que la loi a été publiée, 14 juillet, 5 ans plus tard, en 1870, donc en octobre 1870, il y a le décret Crémieux. Par contre, les musulmans, ils ont été oubliés, là. Et toute la colonisation française, en particulier, la grosse colonisation, mais la colonisation française, a mal accueilli ce décret Crémieux. Et elle était d'ailleurs, quand Napoléon III est tombé, elle était heureuse que Napoléon III se casse la figure et soit viré. Parce qu'elle ne voulait pas entendre parler d'Ismaël Urbain, de ce senatus consulté, et on accusait Napoléon III de vouloir fonder un royaume arabe en Algérie. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, ça mérite d'être étudié un peu plus finement. Et donc, qu'est-ce qui reste? Parce qu'en France, il y a des gens qui s'activent pour que les Juifs accèdent à la citoyenneté française, mais personne ne se bat en France et ailleurs pour que les musulmans d'Algériens deviennent des citoyens français. Parce qu'on a besoin, comme l'a expliqué William, je veux dire mon père, il explique qu'on a besoin d'un peuplement, on a besoin d'un peuplement français en Algérie. Et c'est ce qui va arriver également à tous ces ouvriers qu'on va faire venir travailler en Algérie, qui sont d'origine espagnole, d'origine italienne. C'est mon cas. Mon grand-père était un cultivateur italien qui vivait très mal, enfin, pas mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui vivait très mal en Italie. Il était napolitain, d'origine napolitaine. Et il vient en France. Et là, ils vont être 10 ans à peu près, 10 ans après, hein, en 1880. Ils vont être naturalisés français. Les Italiens vont devenir français, les Espagnols vont, les Maltais vont devenir, les Portugais vont devenir français. Tout le monde va devenir français parce qu'on a besoin démographiquement d'une population française en Algérie. Mais il n'est pas question de donner la nationalité française, la citoyenneté française pleine et entière aux musulmans qui doivent servir de main-d'œuvre au rabais, de main-d'œuvre qu'on surexploite. Vous voyez, il y a des problèmes aussi économiques derrière tout ça. Voilà.
Et puis c'est un mouvement de division coloniale, je pense qu'on peut le dire, puisque si on l'illustre en chiffres, avant de prendre la question, c'est 37-40 000 juifs à peu près en Algérie à ce moment-là, contre, j'ai pas trouvé le chiffre, j'ai plusieurs millions de musulmans, qui eux restent des citoyens, on va dire, de...
Seconde zone,
bon, merci Sandrine, sans droit civique, sans accès aux mêmes institutions, et qui sont soumis également à une justice d'exception. Donc vraiment de traitements différents.
Oui, il va y avoir ce fameux code de l'indigénat, ce code de l'indigénat, et qui fait que c'est ça aussi. Le musulman est un sujet français, c'est-à-dire qu'il doit être français, mais il est sujet. C'est-à-dire, on n'a jamais vu ça, quoi. Une sous-citoyenneté, en gros.
Alors, on va prendre la question, parce qu'on se disait tout à l'heure qu'on pouvait faire une table ronde de 2 heures sur le décret Crémieux et ses effets.
C'est... Alors, il y a 2-3 questions.
Ouais.
Donc, il y en a une là, Thérèse.
Moi, c'est sur un autre terrain que je voudrais aller. Votre père et son épouse ont été pour ont aidé le FLN pour la libération de l'Algérie. Comment ont-ils vécu, entre guillemets, la trahison du FLN qui les a mis en prison, qui c'est quelque chose qui m'interpelle.
Alors on prend une seconde intervention, celle de Serge, ou vous voulez répondre directement?
Non, je vais essayer de répondre à la dame là.
Allez, on prend Serge.
Alors Sandrine,
Michel,
si vous voulez bien,
le micro.
Oui,
voilà, le micro.
Comme ça, peut-être, oui. Voilà. Ça va mieux, là. Ouais.
Allez.
Oui, alors.
Michel, attends, je vais donner d'abord ma sensation extérieure. Voilà. Et après, tu compléteras. Ma sensation extérieure, après les avoir rencontrés à plusieurs reprises, et on a discuté effectivement de cette situation, du fait que. Ils n'ont pas souhaité, enfin, le Parti communiste algérien n'a pas souhaité intégrer effectivement le FLN, et comme il n'a pas souhaité l'intégrer, il s'en est suivi ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire des emprisonnements, pas seulement comme pour Gilbert et William. William le dit d'ailleurs très bien, il dit d'autres camarades, mais on le sent, il me semble, dans leur façon d'être, qu'ils n'ont effectivement aucune qu'ils ne ressentent aucune animosité. C'est aussi ce que j'ai ressenti quand on évoquait ces questions, aussi bien avec Gilbert qu'avec William, qu'effectivement, ils posaient les faits, ils ont été emprisonnés, ils ont été torturés, mais il n'y avait aucune animosité. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle le travail de résilience. Est-ce que c'est le mot résilience qu'il faut mettre ou un autre mot? Enfin, quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de rancœur, il n'y a aucune rancœur d'ailleurs. Ça se sent dans leur façon d'être, de dire. Ils n'ont pas de rancœur. Et ben voilà. Enfin, pourquoi? Ah ben, parce que les gens sont ce qu'ils sont. Nous ne sommes pas tous pareils et chacun ressent comme il ressent. Ben, eux, il s'avère qu'ils n'en avaient pas. Je ne pense pas qu'ils étaient... je trouve pas le mot qu'ils étaient aveuglés. Pas du tout.
Non, bien sûr.
Mais ils n'en éprouvent pas. Je pense qu'après, chaque personne a sa personnalité et sa sensibilité.
Michel ?
Moi, je voudrais répondre...
Le micro
sous le menton, s'il vous plaît, Michel.
Je voudrais répondre politiquement à ce que vous venez de dire, hein. Il aurait été injuste de la part de William et de Gilbert d'évoquer une trahison du FLN. C'est pas une trahison du FLN, c'est la trahison de certains responsables qui ont trahi eux-mêmes l'idéal qui était celui des Moudjahed qui étaient dans les combats. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Moudjahed en Algérie, vivent dans des situations parfois, les quelques survivants à l'époque que j'avais rencontrés, ils vivent dans des situations qui sont parfois pas terribles. C'est une honte. Des vrais moudjahides. Et ils m'ont dit, Michel, nous, ce que nous voulions après la guerre, ce n'était pas le maintien du FLN. Il avait accompli sa mission historique, le FLN. Maintenant, il fallait ouvrir la société algérienne. C'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer, chacun puisse former des partis politiques. Le FLN avait accompli en 1962 sa mission historique. Celle de l'indépendance de l'Algérie, de libérer l'Algérie. Mais tous les Algériens n'avaient pas la même vision de l'Algérie. Et ça, il fallait que nous l'exprimions les uns et les autres. Et quand William dit « on a besoin d'un parti ouvrier, d'un parti communiste qui défende les intérêts de la classe ouvrière algérienne et des flahs pauvres », parce que mon père, il y a une chose qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'il a toujours été du côté des plus petits. C'est eux qui nous intéressent, c'est les travailleurs qui nous intéressent. Les fellah, les gens, les ouvriers. Parce que l'Algérie, quand William est très ému Et pourquoi moi, ici, je me suis mis à pleurer? Pourquoi je me suis mis à pleurer? Parce que cette Algérie-là, cette Algérie des campagnes rurales, des douars, c'est cette Algérie profonde qui m'intéresse. Ce n'est pas l'Algérie de Boundiane ou Bouteflika. C'est l'Algérie profonde, l'Algérie des masses rurales qui vivaient dans une misère extraordinaire, en butte à des maladies, à des tas de choses comme ça, qui compris les dirigeants algériens, eux, qui étaient issus de la petite bourgeoisie, n'arrivaient pas à saisir, n'arrivaient pas à comprendre. Le seul parti qui comprenait ça, et parce qu'on le voyait à travers l'humanité, on le croyait Alger républicain, à travers la lutte sociale, c'est le Parti communiste. À un tel point que, pendant un moment, les Algériens disaient ceci. Les communistes, c'est le pain, les nationalistes, c'est la nation. La nation, le pays, l'indépendance. Pourquoi ? Mais ça, on aura l'occasion d'en discuter, c'est complexe. Pourquoi beaucoup d'Algériens sont arrivés à cette conclusion ? Ce n'est pas une conclusion qui était un petit peu attristante pour le Parti communiste. En fait, le Parti communiste avait, pendant toute une période de l'histoire, pris un retard sur ces questions nationales. Il n'avait pas su il n'avait pas su faire une dialectique sur ces problèmes. La liaison entre les problèmes nationaux et les problèmes de classe. Et ça, c'est une question fondamentale dans l'Algérie. C'est pas simplement... Il y a, bien sûr, le problème national qui est important, mais il y a aussi un problème de classe. Parce que qui c'est qu'on surexploite ? C'est la classe ouvrière algérienne qui est même pas... On peut même pas dire qu'elle est prolétarisée, elle est sous-prolétarisée.
Paradoxalement... Paradoxalement, c'est une phrase, paradoxalement, William Sportis est reconnu Moudjahid par le gouvernement algérien.
Oui, bien sûr.
C'est le grand paradoxe de ces histoires politiques. Après, il a été reconnu Moudjahid plus tard. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de paradoxes.
Allez, j'ai deux questions ici.
Merci.
Oui, merci. D'abord, vous remercier pour l'organisation de cette soirée et merci aussi pour ce film. Moi, je suis né, bien sûr, là-bas, en Algérie. Je suis né à Constantine. Et même, je crois que je suis né deux étages au-dessus de là où a vécu la famille de William Sportis. Dans le même bâtiment. Je crois qu'à travers le film, et moi je témoigne aussi, j'ai lu le livre de William, enfin des
entretiens. Le camp des Oliviers.
Le camp des Oliviers, qui m'a appris beaucoup de choses, parce que moi j'avais que 10 ans en 54, et puis à l'époque on ne parlait pas trop aux enfants. Mais effectivement, sur le tard, je me suis intéressé à ça, parce qu'il est probable, même si effectivement j'en suis pas sûr, mais c'est probable que mon père était plus ou moins affilié au PCA à l'époque, mais je n'ai rien retrouvé de ce coin-là. Et ce qui ne transparaît pas à travers le film, c'est deux choses, parce que vous avez parlé du décret Crébieux, c'est vrai que ça a été un premier déchirement pour les Juifs qui étaient là depuis des millénaires, ce qui est le cas de ma famille, personnellement, à moi. Et ça a été un premier déchirement, parce qu'effectivement, de ce fait-là, ils ont été rejetés, grossièrement, par les deux autres communautés. Bon. Et le deuxième déchirement qui n'apparaît pas au prix, mais qui apparaît un peu plus dans le livre, justement, le camp des Oliviers, c'est que les Juifs, ils ont été aussi très traumatisés quand il y a eu le départ de la guerre d'indépendance, parce que finalement, ils ne savaient plus globalement où est-ce qu'ils devaient aller. Et ça a été un des drames, enfin, entre autres, le deuxième drame, je dirais, qui s'est passé, parce qu'ils ne savaient plus s'ils devaient, effectivement, en tant que Français, se mettre du côté des colons, s'ils devaient rester, en tant qu'Algériens de naissance, effectivement, du côté du peuple algérien, avec qui ils étaient depuis des millénaires. Et donc, ça, c'était un deuxième déchirement. Il faut simplement remarquer qu'au moment où il y a eu les décrets de Pétain sur la suppression de la nationalité juive, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, alors ça a été aussi le troisième déchirement, mais à ce moment-là, les musulmans de l'époque, je dis les musulmans puisque c'était, avaient défendu et avaient dit c'est pas normal, trouvaient pas normal qu'effectivement qu'on leur retire du coup une nationalité qui était acquise, alors que eux-mêmes ils étaient un peu opposés à ça. Voilà, c'était juste ce témoignage que je tenais à faire.
Oui, oui, merci. Tout à fait. Quand on va interroger par exemple les deux grands leaders de la, alors d'une part Farhat Abbas et puis ensuite Messali Hadj, les deux répondent à peu près la même chose. Ils disent nous, on n'est pas pour le nivellement par le bas. Et nous n'accueillons pas le fait que les Juifs perdent leur citoyenneté française. Nous n'accueillons pas ça positivement. On n'est pas pour le nivellement par le bas, parce qu'ils avaient très bien compris, ils n'étaient pas tombés dans le piège. Ce piège, d'ailleurs, que constamment les colonialistes dressaient en disant, vous voyez, vous n'aimez pas les Juifs. Ils essayaient de faire croire que les musulmans n'aimaient pas les Juifs, etc., etc. Ce qui était totalement faux. En réalité, à tous les moments, les musulmans n'ont jamais été antisémites. Si on parle. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, antisémitisme, même ce mot. C'est oui, parce qu'ils sont sémites. Mais je veux dire, voilà. Et c'était, en réalité, une fois, j'ai eu une discussion avec une dame qui a écrit quelque chose sur les Juifs, Hedia Ben Sahli. Et je lui ai parlé tout d'un coup de l'Algérie française et je lui ai dit, je lui ai parlé de l'antisémitisme de l'Algérie française. Elle a cru que je parlais des musulmans. Je lui ai dit, attends, je ne parle pas des musulmans, je parle des Européens. Et après, elle m'a dit, ah oui, pardon.
Mémodio, une mémoire sonore.
Moi, je suis né à Oran. Quand il y a eu l'indépendance, je viens de voir les images passer. Et j'étais comme ça sur les épaules de mes parents, devant le jardin public à Oran. Il y avait une guérite où il y avait un flic qui faisait la circulation. Je me rappelle très très bien de cet épisode. Je devais avoir 4 ans par là. En fait, sur le décret Crémieux, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde semble oublier que le décret Crémieux a enfanté quasiment, je ne sais pas si c'est du systématique ou s'il y a cause à effet, mais il a enfanté la révolution de l'Moqarani dans la Kabylie, 1871, qui a débouché sur, je vous rappelle, l'exil d'une partie de notre population en Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Algériens en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas combien, 10 générations, oui, oui. 7 générations après, ils y sont encore. Donc, cette révolution, elle est née du fait que le pays des droits de l'homme, parce qu'on commençait à parler du pays des droits de l'homme pour ce qui est de la France, on est en 1870, Napoléon, machin. Enfin, l'aura du français et de la France avait traversé la Méditerranée jusqu'à chez nous. Les gens du Douar, des Gourbis, voilà, jusqu'à chez nous. Et on l'a appris à l'école. On n'y peut rien, c'est comme ça. Eh bien, personne n'intégrait la notion que cette nation qui se considérait comme gérante de ce territoire pouvait séparer les populations en fonction de leurs croyances religieuses ou de leur ethnicité. Personne ne comprenait pourquoi les Juifs qui étaient là depuis 2000 ans, 3000 ans, enfin depuis 2000 ans au moins, subitement, eux, ils étaient assimilés à la nation française et pas l'immense majorité de la population qui a été d'ailleurs chassée de ses terres, qui s'est réfugiée dans les montagnes, dans les gourbis des grandes villes, les trucs, les machins. Grosso modo, ce que font les Israéliens de nos jours. Hein. Bon, y a un véritable parallélisme. Voilà. Deux, je ne suis pas persuadé que l'Algérie ait œuvré directement contre les communistes. Je dis le gouvernement algérien. Parce que cette période, on a vu défiler à Alger tout ce qu'il y avait comme communisme dans le monde. J'ai vu défiler Che Guevara, j'ai vu défiler Fidel Castro, j'ai vu défiler les Chinois. Alger était la Mecque du socialisme mondial. C'était quasiment, à cette époque-là, ça s'appelait comme ça. Tout à l'heure, on faisait référence à Budapest. Je rappelle que le pacte de Budapest, c'était le pacte du bloc de l'Est. C'est pour ça que Budapest a été connu. Donc, voilà. En fait, je voulais deux observations. C'est que je ne pense pas que les communismes, en tant que communistes, ont été persécutés. Par contre, en tant que germe de vouloir ouvrir les yeux aux gens pour pouvoir faire de la graduation dans la société, oui, il devenait dangereux pour ceux qui avaient une trouille bleue de voir cet immense pays ou ce pays et continent se morceler.
C'est une question. Alors, tu reprends la parole après, donc sur la MEC des socialistes ou
Sandrine voudrait
la MEC
réagir.
Des révolutionnaires. Tu veux répondre, Sandrine ?
Oui, juste brièvement. Ce que vous dites, effectivement, il y a eu Che Guevara qui est venu et puis d'autres personnalités par rapport au communisme, mais je pense que malheureusement, c'est tout le paradoxe, là encore, de ce gouvernement ou de certains hommes politiques, parce que quoi qu'il en soit, la réalité était quand même là. Les militants communistes algériens, du fait d'avoir refusé d'intégrer le FLN, se sont quand même retrouvés de nouveau, le parti s'est retrouvé clandestin, et il y a eu quand même des emprisonnements, et ça a réellement existé. Ceci n'est pas une fable. Donc, je pense que c'est le grand paradoxe. L'Algérie est pleine de paradoxes.
Alors, avant la question suivante, j'aime bien quand on... Alors, on va laisser Michel réagir brièvement s'il le veut. Et j'aime bien quand on pose certaines balises. On est allé très loin là, du décret Crémieux. On est passé au FLN. Et monsieur évoquait dans son propos Vichy. Je vais me tourner vers Sandrine pour qu'on s'attarde un instant sur Vichy et justement ce qui s'est passé avec le décret Crémieux. Michel, d'abord, en réaction...
Oui, c'est paradoxal. Ce que tu dis, il y a des choses qui sont justes dans ce que tu dis. Enfin, je te tutoie, mais bon. Je crois que il nous faudrait une longue discussion, peut-être après, ensemble, parce que il y a de la complexité dans beaucoup de choses, énormément de complexité, et y compris quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, les pays soi-disant socialistes, on s'aperçoit que nos dirigeants, les dirigeants algériens, allez, on va dire nos dirigeants, parce que moi je me sens algérien, je suis franco-algérien, je suis algérien. J'assume, je suis algérien. Bon. Et nos dirigeants, je veux dire, ils ressemblent par... Ils ont gardé bien des traits les plus répugnants des dirigeants des bureaucraties des pays de l'Est. Ça, ils l'ont gardé dans la tête, on dirait que ça leur a été transmis. Par contre, ils ont une peur bleue que les masses s'organisent, que les travailleurs s'organisent. Et s'ils ont arrêté des gens comme William, comme d'autres, tout ça, tous ces camarades-là, c'est parce que ces camarades-là allaient leur perturber leur truc. Ils allaient tenter d'organiser les travailleurs et les fellahs algériens pour leurs revendications, pour leur dire « c'est pas vous qui gouvernez ». Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit « seul le peuple hein, ». C'était dans nos... Voilà. Ben, c'est ça le problème de fond. Je pense que l'exemple de William, c'est l'exemple d'un communiste qui va jusqu'au bout de ses convictions. C'est pas quelqu'un qui se sert du communisme pour arriver au pouvoir et ensuite il a tous les trucs, c'est bien pour lui. Et c'est pour ça que c'est moi le problème que j'ai par rapport à, même si quand il y a eu le coup d'État du 19 juin 65, il y a des choses qu'on n'a pas su tout de suite. On ne savait pas ce que c'était ce coup d'État. Et les communistes sont restés longtemps peu informés. Qui est derrière ce coup d'État ? Et on s'est rendu compte après coup, comme tu l'as dit, que vraisemblablement Ben Bella était beaucoup plus anticommuniste que Boumediene. Aller chercher des propos directement anticommunistes chez Boumediene, c'est difficile d'en trouver. Parce qu'il savait qu'il avait besoin des communistes, qu'il ne pouvait pas s'attaquer aux communistes, il avait besoin d'eux. Ben Bella, lui, on ne sait pas vers quoi il nous aurait menés. Et on l'a vu ensuite.
On a brièvement évoqué Vichy et puis ses, ce qui s'est passé avec le décret Crémieux et puis les incidences. Sandrine, est-ce que cette période de Vichy, c'est un autre moment fondateur dans le parcours des sportifs? Et puis, est-ce qu'on peut expliquer un peu ce qui s'est passé avec le gouvernement de Vichy, avec le décret Crémieux?
Pour la période de Vichy, je pense qu'effectivement, William est lié à cette période, mais il est lié aussi avec son frère par rapport à ce qu'il s'est passé, puisque son frère Lucien Sportis s'est fait abattre par la milice de Vichy à Lyon. Il était effectivement très très proche de son frère, ils avaient 18 ans d'écart, comme il le dit avec nous. Et il était, voilà, c'est son frère Lucien qui lui a donné un peu les rudiments, d'autant que Lucien était militant. Il s'est fait tuer pendant cette période de Vichy. Donc, de fait, il y a eu une implication de la part de William. Ça a résonné, je pense, beaucoup en lui. Et ça a été aussi l'une, peut-être, des raisons de son engagement. Pas seulement, mais je pense que ça a eu une incidence. Après, Michel peut-être sur la suite.
On prend les deux dernières questions.
Oui, on prend les deux questions, trois. Peut-être.
Et... Alors, Kéra qui va clôturer la soirée comme les fois dernières, mais qui a une question avant cela.
Oui. Non, déjà, dire mon émotion par rapport à quand il a pleuré, moi j'étais déjà. C'était touchant, et en même temps rigolo aussi, parce qu'elle faisait rire, c'est vrai. S'appelle Gilbert, pardon. Deleuze, c'est pas loin de chez moi. Moi, je suis pas née à. Je suis née après 62, donc je connais pas la guerre. Arrivée en France, à l'école, on nous a rien appris. Et c'est maintenant, avec les reportages, Internet, qu'on apprend beaucoup de choses, comme là aujourd'hui avec vous. Merci. Deleuze, donc je disais, moi, je suis de Medjouna, je suis née à Medjouna, et mon père était de Renault. Dans l'époque française, aujourd'hui, c'est Sidi Mohamed Ben Ali. C'est du Mezouna, la Rélizène. Donc, Ouadélu. Alors, ma question, c'était, vous ne parlez que de William. Vous disiez que vous aviez une mère. Même dans le reportage, il n'y a personne qui parle d'elle. Et ma deuxième question, parlez-vous l'arabe?
Oui, un petit peu, oui. Je suis bien.
Et mon dernier ressenti, j'avais l'impression que j'étais en famille, en fait. Comme si on était dans un salon en train de discuter tous, tout à l'heure. C'était vraiment pas mal. Merci.
Alors, c'est vrai que William n'est pas non plus quelqu'un de très porté sur l'affect. Et donc, quand nous l'avons rencontré, c'était davantage une rencontre alors humaine, bien sûr, liée à son parcours, son engagement et son parcours politique. Et donc, nous n'avons pas évoqué, effectivement, la mère de Michel, même si ça a été fait en aparté, c'est-à-dire en off, lors de discussions informelles, mais dans la discussion à proprement parler, enfin, sur le montage, ce qu'on souhaitait, on avait un fil narratif, et le fil narratif était davantage porté sur l'engagement politique et aussi de parler de l'Algérie, et c'est pas non plus évident, on n'a pas pu tout raconter, comme effectivement pas non plus évoquer la question du déchirement après 62, du départ des Juifs, la question des harkis. Bon, il y avait beaucoup de choses en fait qui n'ont pas été traitées, parce qu'on ne peut pas non plus tout traiter. Donc voici pourquoi la maman de Michel n'est pas entre guillemets mentionnée dans le film.
Oui. Je pense aussi qu'elle n'aurait pas été capable de figurer dans ce film, de dire quelque chose d'intelligible. Voilà, je vais vous le dire. Et je pense qu'une des raisons de la séparation de William, c'est pas que William qui l'a... C'est parce que ça ne pouvait plus fonctionner. Alors c'est des choses personnelles, j'ai pas très envie d'en discuter là. Mais j'ai pas envie non plus de... Je ne pense pas que ni William soit responsable de cette situation... ni ma mère. C'est complexe, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà.
Je laisse la parole à...
Oui, je...
On voudrait savoir si c'était son papa. C'était votre papa?
Oui.
Et vous l'appelez William?
Oui.
Ah, d'accord.
C'est son père, il est toujours en vie.
Non, mais je préfère l'appeler William.
Déjà, je pensais que c'était le papa parce que vous le ressemblez vraiment à photocopie. Voilà, je pensais que c'était vous. Alors, ma question, c'est j'ai regardé un peu le dossier le Crémieux. Il était de confession juive. Et on se pose la question, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, en France, sur la loi de la...
Yadan.
On est en train de se poser la question si ce n'est pas un peu la photocopie qu'ils sont en train de nous faire. Genre les actes antisémites. Voilà, faut savoir que les sémites, c'est tout le Moyen-Orient et ça va jusqu'au Maroc. On est tous des sémites. Il faut arrêter de tomber dans ce panneau. Et j'ai remarqué que 10 ans après qu'il soit décédé, M. Crémieux, on a une personne de confession musulmane, un Français reconverti, qui devient député. Je me pose la question si ce n'est pas un peu une mise en scène pour pardonner ce qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée. Et moi, personnellement, ma grand-mère, moi, je suis de confession musulmane et je suis d'origine tunisienne. Ma grand-mère m'avait raconté sur Tébessa, on était à la frontière Tébessa, il y avait des milliers d'Algériens qui sont émigrés en Tunisie. Il y avait des tentes, il y avait plusieurs tentes, des milliers de tentes. C'était incroyable. Et on se pose la question, les nombres de morts qu'il y a eu, et est-ce que votre papa, pourquoi il ne vit plus là-bas ?
Il y a eu les événements, la fameuse décennie noire, là, hein, que les gens connaissent bien. Moi, je pense que c'est les camarades algériens qui ont demandé à William de rentrer ou d'aller en France. C'est pas William. William ne voulait pas partir. Et je pense que c'est un déchirement, quelque part, pour lui. Il me disait toujours, quand j'étais beaucoup plus jeune, qu'il avait envie de mourir à Constantine. Parce qu'il est né à Constantine. Et que c'est sa ville préférée. Je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, je n'ose pas lui en parler à 102 ans. Comment voulez-vous que je lui en parle ? Mais je pense que c'est un déchirement, quelque part. Son pays, c'est l'Algérie, c'est battu. La France, ce n'est pas son pays.
Mais en fait,
il a un immense respect pour ce pays, et pour les Français, évidemment. Mais ce n'est pas son pays. Il est algérien. Alors que moi, je dirais que je suis moins algérien que lui, puisque j'aime la France. Je suis franco-algérien. Alors,
oui, alors je vais expliquer pourquoi moi je suis... parce que j'ai eu une période de ma vie où je ne me suis pas senti algérien. J'étais dans le milieu italien avec ma mère. Mon père était clandestin. Donc je n'ai rien vu de... J'ai eu j'étais enfant, j'ai vu... Mes premiers souvenirs remontent à 6 ans, donc à 1960. J'ai vu des choses... J'ai vu des choses, mais mon père n'était pas là pour me les expliquer. Moi, à l'époque, quand j'étais gosse, il faut toujours regarder avec ses yeux. Il faut toujours relater les choses avec ses yeux de gosse, pas avec ses yeux d'un adulte. La première chose qui m'a frappé dans les manifestations de décembre 1960 auxquelles j'ai assisté de visu quand j'étais à Philippeville, parce que ma mère habitait Philippeville, elle était philippevilloise. C'est comme ça qu'elle avait connu William, qui était constantinois. Et ma mère est toujours restée une Européenne. Elle n'était pas liée à la population.
Question.
Et mon grand-père, c'est quelqu'un qui avait un immense respect pour les paysans algériens, mais ça se limitait à ça. Et il disait souvent, je ne comprends pas pourquoi ils ont un tel attachement à l'islam. Lui, il n'aimait pas la religion. Mais il aimait les paysans algériens parce que c'était des paysans. Et il détestait les colons parce qu'il trouvait que c'était des exploiteurs. Et que des colons, il en avait... eu, lui, dans sa vie autrefois, dans ses vies d'autrefois. C'est intéressant quand même de voir les choses sur ce biais-là. Pourquoi il est, à la fois, il est courageux parce qu'il ne veut pas être raciste avec les... Il veut être respectueux et en même temps, il ne comprend pas. Il y a des choses qui le... Bon. Et donc, moi, j'ai vécu dans ce milieu-là, dans un milieu très italien. À Philippeville, il y avait tous les Napolitains, ils étaient ensemble. Tu vois, déjà, c'était une Algérie très particulariste. Hein. Il y avait les Italiens avec les Italiens, les Espagnols avec les Espagnols, les Juifs avec les Juifs, les Musulmans avec les Musulmans. C'était une société. La société coloniale algérienne, c'était extrêmement raciste. Et comment, moi, qui, à cette époque-là, qui était un enfant, je ressentais ce racisme. Chaque fois, on me ressortait que j'étais ou Juif,
ou italien. De toute façon, je n'étais pas français. Je n'étais pas un franco-français, si on peut dire, pour parler comme ça. J'étais moi aussi un immigré. Mais malgré tout, j'étais au-dessus des Arabes. Hein. Les Arabes, c'est... parce qu'on ne disait pas les... on disait pas les Algériens, on disait les Arabes. Et ça, c'était une connerie monumentale, parce que ce n'est pas des Arabes, c'est des Algériens. On est d'accord, hein.
Bon, c'est quelque voilà. chose d'universel.
On... Ah ben oui, oui.
Oui. Et voilà, et donc c'était comme ça, l'Algérie de cette époque, c'était une Algérie bien particulière, et où on se perdait, on ne savait plus qui nous étions. Et donc moi, j'ai vécu jusqu'en 62 dans le milieu européen-italien. Et quand mon père est venu me chercher, il m'a fait découvrir l'Algérie. Et il m'a remis au contact de ces gens-là. Et ça a été... ça a été pour moi, ça a été une transformation de mon être. Je suis devenu un Algérien. C'est-à-dire que je connaissais bien la population. Et aujourd'hui, je veux dire, qu'est-ce que je m'entends bien avec les Algériens? Mais franchement... qu'est-ce que j'aime les Algériens, c'est incroyable. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est que pendant toute cette période, j'avais peur des Algériens. La période, quand j'étais jeune, je voyais un Arabe, je disais, mais il va me tuer. Et pourquoi je disais? Parce que c'est l'étranger de Camus. Pourquoi je disais que l'Arabe, il va me tuer? Je voyais un jeune Arabe, je dis, il va me planter un coup de couteau dans le ventre. Pourquoi? Mais parce que tous les jours, pratiquement, quotidiennement, il y avait le racisme au quotidien. C'est-à-dire que l'Européen, il traitait mal. Va ici, il me chifouque le trottoir, espèce de con, espèce de bico, raton, voilà, va-ci. Non, mais je vous assure, c'était ça, tous les jours, c'était ça. Moi, je vivais ça. Et ça me déchirait le cœur en tant qu'enfant, parce que je disais, mais pourquoi on les traite comme ça? Je ne comprenais pas. Ils n'ont rien, deux yeux, un nez... comme moi, quoi. C'est des enfants comme moi. Et donc ça m'a marqué pendant très longtemps. Et j'avais peur d'eux parce que je me disais, ils doivent... Putain, avec tout ce qu'ils ramassent, c'est pas possible. Ils doivent en avoir ras-le-bol des Européens. Franchement, les Européens, ils commencent à leur casser les... Et en plus, ils sont pas chez eux, en plus. Et en fait, les Algériens étaient des étrangers chez eux. Comme les Indiens d'Amérique. Même chose. Voilà.
Alors... Oui. Avant de conclure, une dernière question pour Sandrine, celle du devenir du film. D'abord, comment a-t-il été accueilli à sa sortie? Et puis, est-ce qu'il a été vu en Algérie?
Alors, le devenir du film, nous l'espérons encore avec une longue vie, puisqu'il est sorti en salle en 2025. Alors, comme c'est une distribution un peu indépendante, on n'a pas eu une grande sortie officielle, mais il a quand même été vu dans plusieurs salles de cinéma. En général, le public est souvent assez touché. Alors après, il peut y avoir des réserves sur la façon, par exemple, dont ils ont réagi effectivement vis-à-vis de la torture, etc. Et pour l'Algérie, nous sommes en attente du visa d'exploitation, c'est-à-dire on ne peut pas le présenter tant que le ministère de la Culture algérien ne nous a pas donné son accord. Enfin, qui dit accord, soit ils disent oui, soit ils disent non. Et là, en fait, on est en attente. On ne sait pas. Le film n'a pas été visionné. Ça fait à peu près un an et demi qu'on attend la réponse. Je ne sais même pas si nous aurons finalement une réponse. Mais peut-être qu'à un moment, ce sera oui ou non. Mais en tout cas, pour une diffusion là-bas, il faut que ce soit un oui du ministère de la Culture. Voilà. J'ai répondu, je pense, oui.
Alors, on va pouvoir s'attarder un peu dans la salle si on le souhaite, avant de conclure, puisqu'on a une conclusion un petit peu originale. Avant de dire merci à Sandrine et à Michel, je voudrais d'abord remercier l'équipe des Chemins de la République. Alors, il y a Ali qui est là et qui a très largement conçu cette soirée. Le compère Mourad qui est rentré à la maison, mais qui a été très efficace quand même. On n'est pas toujours tous sur le pont en même temps. Merci Sandrine pour ce film qui nous rappelle qu'il existe encore des femmes, des hommes qui refusent de choisir entre leur identité et qui mettent la complexité du monde comme une force plutôt comme une blessure. L'histoire ne demande pas d'être d'accord avec elle nous demande surtout d'avoir le courage de la regarder en face. Donc je vous remercie infiniment pour le film, pour votre présence, pour votre participation et les échanges. Je voudrais vous laisser sur une, une phrase de Aimé Césaire qui me semblait tout à fait convenir après avoir visionné le film pour la première fois. Je vous laisse la méditer. Il n'y a qu'un seul héroïsme au monde, voir le monde tel qu'il est et ne pas désespérer.
Ah oui, c'est tout à fait.
Merci Jean-Luc. Juste très rapidement, puisqu'on a la chance d'avoir un artiste ce soir dans la salle. Donc, Kéra.
Kéra ?
Oui.
Kéra.
Alors, je donne toujours des titres, à mes textes et j'explique en même temps celui-là. Indigénance, indigène, France, ingérence. Cela a commencé par la colonisation. Colons et Algériens vivaient en cohabitation. Les colons débarquèrent leur cavalerie pour une vie prospère en Algérie. C'était un département français où il faisait bon vivre sous les oliviers. Son peuple était appelé indigène. Leur fierté était déjà dans les gènes. Jusqu'au jour du ras-le-bol, malgré l'appel du général de Gaulle. Ils avaient vécu ensemble naguère. Certains menaient une vie pépère, quand les autres étaient dans la misère. Ensemble dans les campagnes, dans les quartiers populaires, qui ont vu naître leurs grands-mères et grands-pères. Certains ont fait ensemble leur service militaire et perdu également des frères à la guerre. 14-18, le débarquement en Normandie, l'Indochine. Y revenait le corps meurtri et une triste mine. Le règne pacifique de la civilisation n'était plus que peine et déception. Il ne se faisait plus d'illusions. Tout était sous haute tension. Le temps de la soumission était essoufflé. Moins de compassion, aucune liberté. Des deux côtés s'était instaurée de la méfiance. Il ne se faisait plus confiance. Les Algériens se sentant exploités, une minorité s'était révoltée. Puis cela a gagné les villages autour. Plus de haine et aucun détour. Violence, trahison, ségrégation, surtout répression. Il n'y a plus de discussion. Attentat à la bombe, torture, bavure. La guerre s'était déclarée très dure. Viol, emprisonnement et guillotine. Personne ne voulait plus courber les chines. Le fossé s'était creusé. Une solution était à trouver. Les Algériens voulaient leur indépendance. Et beaucoup de pieds noirs, par peur, rejoignirent la France. La révolte des Algériens était légitime, mais malheureusement, il y eut beaucoup de victimes. Il ne restera de cette guerre que les souvenirs amers de ces deux peuples meurtris, gravés à jamais dans leur esprit.
Merci infiniment. Et merci à vous tous.
Mémodio, une mémoire sonore.